Questions d'actu, le podcast des PUT de mesures physiques de l'IUT de Blois sur Radio Campus Tours.
Vous écoutez le podcast des étudiants de deuxième année de PUT mesures physiques de l'IUT de Blois. Des sujets d'actualité vus sous un autre angle. Épisode 1, l'ONU face à ses défis insurmontables. Bonjour, on entend souvent dire que l'ONU ne sert à rien. En préparant ce débat, je me suis moi-même demandé, est-ce qu'on s'acharne à maintenir en vie un système périmé? On a l'idéal de 1945, le plus jamais ça. Et c'est la réalité d'aujourd'hui. Je ne veux pas de langue de bois. Mais, avant de décider si on garde ou si on la jette, il faut regarder la réalité. Face à ces crises actuelles, on parle souvent de défis insurmontables. Edem, est-ce aussi ton constat?
Insurmontable? C'est le mot poli, je dirais. Moi, je dirais qu'elle est en état de mort cérébrale. Regardons la réalité en face. L'ONU est une bureaucratie obèse et coûteuse qui a perdu sa raison d'être. Elle a été construite pour un monde qui n'existe plus. En 1945, il y avait 50 pays. Aujourd'hui, il y en a 193. Mais ce sont toujours les mêmes 5 vainqueurs de 1945 qui décident de tout. C'est un club de vieux riches qui regardent le monde brûler depuis leur bureau climatisé à New York. La légitimité de l'ONU s'effondre parce qu'elle est incapable d'imposer quoi que ce soit. C'est une tribune de bavardage, pas un centre de décision.
Je comprends ta frustration, Adem. Elle est partagée par beaucoup, mais dire qu'elle est morte, c'est dangereux. L'ONU est le seul forum universel qui existe. C'est la seule table où la Corée du Nord peut croiser les États-Unis, où l'Iran siège à côté de l'Arabie Saoudite. Si on supprime l'ONU, que reste-t-il? La diplomatie de la canonnière? La loi du plus fort brut? Sans témoins, sans cadre juridique? L'ONU a permis d'éviter une troisième guerre mondiale nucléaire pendant la guerre froide. Ce n'est pas parfait, c'est souvent lent, exaspérant même, mais c'est le seul garde-fou que l'humanité ait inventé contre sa propre autodestruction.
Attendez, on tourne autour du pot. Le vrai scandale du Conseil de sécurité, ce n'est pas juste qu'il y ait 5 membres permanents. C'est que l'ONU se dit démocratique, mais fonctionne comme une aristocratie. Edem, tu parles de blocage, mais concrètement, pourquoi ce système rend-il le maintien de la paix impossible aujourd'hui?
Tout simplement parce que le veto est devenu une arme de guerre. Depuis 1945, il a été utilisé près de 300 fois. Ce n'est pas un outil de protection, c'est un outil de paralysie. Regardez l'Ukraine. La Russie viole la charte de l'ONU en envahissant son voisin. Le Conseil veut condamner et la Russie lève la main. Veto, fin de l'histoire. L'agresseur est aussi le juge dans cette histoire. Regardez Gaza. Les États-Unis ont mis leur veto à 3 reprises pour bloquer des appels au cessez-le-feu humanitaire. Résultat, l'ONU est spectatrice. Elle compte les morts, elle publie des rapports, mais elle ne peut pas envoyer un seul casque bleu sans l'accord des grandes puissances. Le défi est insurmontable car le système est verrouillé de l'intérieur.
C'est vrai que le Conseil de sécurité est bloqué quand les grands s'affrontent. Mais l'ONU sait contourner ces blocages. Quand le Conseil est paralysé, l'Assemblée générale prend le relais avec des résolutions symboliques qui isolent l'agresseur diplomatiquement. Et n'oublions pas les opérations de maintien de la paix de l'OMP. Il y a aujourd'hui 70 000 casques bleus sur le terrain. Au Liberia, au Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, ils ont désarmé des milices, organisé des élections et reconstruit des États. Sans les casques bleus au sud Liban, le conflit entre Israël et le Hezbollah serait encore plus dévastateur. Ils ne peuvent pas imposer la paix par la force, c'est vrai. Mais ils gèlent les conflits pour permettre à la diplomatie d'agir ensuite.
Je vous arrête. Le bilan est mitigé, d'accord. Mais Jules, tu dis que les casques bleus gèlent les conflits. Ça marche peut-être pour la guerre, mais pour le climat, on ne peut rien geler. Edem, on sait que l'ONU a du mal, mais honnêtement, qui d'autre peut réunir 193 pays pour parler du CO2? Si on tue l'ONU, mais on parle où? L'ONU a-t-elle au moins appris de ses erreurs?
Écoutez bien, tout le monde le sait, elle n'apprend pas vite, surtout quand il s'agit de nouveaux défis. Parlons du climat, si vous voulez. C'est la menace existentielle du siècle. L'ONU organise les COP. Aujourd'hui, on est à la COP29. Le problème, c'est le concept de soft law. L'accord de Paris de 2015 est juridiquement contraignant sur le papier, mais il n'y a aucune sanction. Si la Chine ou les USA doublent leur production de charbon, l'ONU ne peut rien faire. Pas d'amende, pas d'embargo. L'ONU est devenue une foire commerciale où les lobbyistes du pétrole viennent négocier des virgules dans des textes que personne ne respecte. Le défi climatique exige une dictature verte ou une police mondiale. Et l'ONU n'est qu'un secrétariat.
Alors là, non, Adem, tu es très dur. Sans l'ONU, il n'y aurait même pas de consensus sur le fait que le climat se réchauffe. C'est le GIEC qui a prouvé la responsabilité humaine. Sans ces rapports onusiens, les climato-sceptiques auraient gagné la bataille de l'opinion. Et le système marche parfois. Prenons exemple le protocole de Montréal en 1987. L'ONU a identifié le trou dans la couche d'ozone, a interdit les gaz CFC, et aujourd'hui, la couche d'ozone se reconstitue. C'est la preuve que l'ONU peut sauver la planète quand les États jouent le jeu. Le problème, ce n'est pas l'outil, c'est l'égoïsme des États membres.
On a vu l'échec politique et la lenteur climatique, mais il reste encore des arguments que Jules, tu n'as pas encore sortis, et qui me semblent être le seul qui tienne encore la route. Le terrain. Est-ce que l'ONU, finalement, ce n'est pas juste une super ONG ? Est-ce que là ne se trouve pas sa vraie réussite ?
Absolument, Amir. C'est la face immergée de l'iceberg. L'ONU, c'est d'abord la plus grande agence humanitaire de l'histoire. Parlons chiffres, parlons bien. Le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, nourrit 115 millions de personnes par an. C'est une logistique de guerre mise au service de la vie. En Afghanistan ou au Yémen, les camions blancs de l'ONU sont souvent les seuls à passer malheureusement. Côté santé, l'OMS a éradiqué la variole. Elle a réduit la polio de 99% et elle a très bien géré la réponse Ebola. Pour chaque enfant qui est vacciné ou qui reçoit un repas, l'ONU n'est pas un échec, c'est sa seule chance de survie, c'est une réussite.
Je te l'accorde, Jules. Sur le terrain humanitaire, l'ONU réalise des miracles logistiques que personne d'autre ne pourrait assumer. Pour un enfant vacciné dans un camp de réfugiés, l'ONU est effectivement une réussite vitale et indiscutable. C'est sans doute là son plus beau visage. Cependant, mon inquiétude demeure sur la cohérence globale de l'organisation. Comment rester crédible sur les valeurs fondamentales quand on laisse des régimes qui bafouent les libertés siéger au Conseil des droits de l'homme ? Le véritable défi, c'est d'empêcher que cette efficacité humanitaire ne devienne qu'un simple pansement destiné à masquer une impuissance politique.
Question d'actu, le podcast des BUT Mesures Physiques de l'IUT de Blois.
Nous arrivons au terme du débat. Adam, tu as prouvé que le Conseil de sécurité est paralysé. Jules, tu as prouvé que sans l'humanitaire, le monde serait pire. Je vous propose alors un consensus. Est-ce que on ne peut pas dire que l'ONU a échoué comme gendarme de la paix, mais qu'elle est indispensable comme infirmier du monde ?
Écoutez, je ne suis pas aussi radical que j'en ai l'air. Je reconnais avec toi, Jules, que l'ONU reste notre seule maison commune et que sa disparition rendrait le monde bien plus dangereux. Mais pour qu'elle survive, elle ne peut plus se contenter du statu quo. Si les 5 membres permanents s'obstinent à ne pas partager leur gâteau, et à bloquer toute réforme du droit de veto, l'organisation risque de s'effacer lentement. Non pas par choix, mais par inutilité, comme la SDN en son temps. Je ne souhaite pas brûler la maison, Jules, mais je dis qu'il y a urgence à réparer le toit avant que les fondations ne lâchent.
Pour moi, c'est un compromis triste, mais réaliste. Mieux vaut une ONU qui soigne, même si elle ne peut pas toujours empêcher les bombes, que pas d'ONU du tout, tout simplement.
Alors c'est tranché. Le problème n'est pas l'ONU en soi. Mais c'est ce qu'on attend. On garde l'infirmier, mais on arrête de croire aux gendarmes magiques. Merci à tous les deux. Cet épisode vous a été proposé par Amir, Jules et Adem, étudiants en deuxième année de BUT Mesures Physiques de l'UT de Blois, dans le cadre du cours de Madame Dard. Retrouvez tous nos podcasts sur le site de Radio Campus Tours et sur les réseaux sociaux de l'UT de Blois.